Philippe Guillemant, vous avez été d'une sagesse exemplaire jusqu'à l'âge de 14 ans pratiquement, où vous aidiez le directeur à faire les devoirs, disons corriger les devoirs pour vos collègues. J'aimerais savoir où est passée cette sagesse exemplaire pour l'homme de science de réputation internationale que vous êtes devenu.
Alors là, je ne sais pas où vous allez aller chercher ça, j'ai rarement dit ça, mais bon, vous êtes tombé dessus, ok. Vous appelez ça de la sagesse, le fait d'être...
Exemplaire.
Exemplaire, bon, on peut appeler ça de la sagesse, je ne suis pas tout à fait en accord. Je me trouve beaucoup plus sage aujourd'hui qu'auparavant. Parce que ça, on pourrait presque l'assimiler à de la soumission qui est le fléau actuel dans notre société, d'accord ? Donc cette sagesse qui consiste à faire ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est exactement l'inverse de ce dont on a besoin pour que l'humanité évolue dans le bon sens. D'accord ? Et de ce point de vue-là, aujourd'hui je suis sage et avant je ne l'étais pas.
Philippe Guillemant, vous avez rencontré les dialogues avec l'ange. Mais avant cela, en 2006, il y a eu une synchronicité peut-être. Il y a eu le livre de Pierre Jovanovic, Enquête sur l'existence des anges gardiens. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, ça a été un peu ce déclic qui vous a mis sur la voie du temps, à la recherche du temps, la route du temps ?
Alors non, pas tout à fait, parce que j'étais déjà bien déterminé à faire des expériences sur le phénomène de synchronicité et je cherchais un protocole que j'avais déjà partiellement mis au point par rapport à l'état de conscience, dans quel état de conscience, dans quel état d'esprit il fallait se mettre pour parvenir à provoquer la synchronicité. Et c'est en recherchant ce qui pouvait dans la littérature nous permettre de communiquer avec l'ailleurs, hein, l'au-delà, enfin tout ce que vous voulez, hors espace-temps, que je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille voir au niveau de ce qu'on appelle les anges, puisque ça a l'air d'être des canaux de guides, je joue le rôle de guide, que je recherchais comment cette guidance pouvait bien se traduire, et là je me suis dit, bon, quelles sont les personnes les plus sérieuses qui ont écrit des choses au niveau des guides, et puis Pierre Jovanovic avait rendu public, largement popularisé son expérience aux États-Unis avec son histoire de la balle. Et là, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, je me suis dit, bon, la manière dont il raconte cette expérience-là me montre que ce type-là a une vision assez objective, je dirais pas scientifique, mais presque, qui ressemble à la mienne. Il a écrit un bouquin là-dessus, donc je vais le lire. En le lisant, j'ai simplement eu la confirmation du fait que cette guidance existait. Et ce n'est que ultérieurement que j'ai trouvé le protocole, enfin j'ai réussi à combler mon protocole, à le finaliser, en lisant le livre « Les dialogues avec l'ange » sur lequel je suis tombé par hasard, par contre. Hein ? Donc voilà.
Dans une bibliothèque à Digne-les-Bains.
Dans une bibliothèque à Digne-les-Bains, dans un deuxième temps. Voilà.
Vous êtes au cœur de ce tunnel du temps où l'on entre et d'où l'on sort, bien sûr. Entre-temps, vous êtes un être, j'ai l'impression, qui a été très inspiré. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme inspiré, Philippe Guillemant ?
Inspiré, oui, je suis inspiré depuis mon enfance.
Science et spiritualité ?
Non, la spiritualité, j'ai découvert ça très tard. Mais dans mon enfance, j'avais la passion de la physique, mais au-delà de la physique, de tout ce qui pouvait... de la métaphysique, de la philosophie. Je lisais énormément de livres. Je suis même allé dans l'ésotérisme, que j'ai ensuite rejeté, pour n'y revenir plus ou moins que sur le tard. Non, j'avais quand même un œil très très sceptique sur tout ça, dans ma jeunesse. Mais je me suis intéressé à tous les mystères, dans la mesure où j'en ai expérimenté dans ma propre vie. J'ai ensuite vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, ma démarche, c'est celle d'un scientifique qui ne refuse pas les anomalies. Mais avant d'étudier les anomalies, je fais en sorte de vérifier qu'elles existent réellement. Et donc, pour ce qui concerne le hasard, je l'ai vérifié dans ma jeunesse. C'est-à-dire que j'ai identifié le lien entre le hasard et la conscience pendant mes études. Et c'est pour ce quoi j'étais sensibilisé au phénomène de synchronicité plus tard. Mais c'est seulement lorsque j'ai fait des travaux d'intelligence artificielle que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tout compris à ce niveau-là. Et petit à petit, je suis sorti du matérialisme et j'ai compris plein de choses, quoi. Et après, c'est une explosion.
Votre passion vous a fait réaliser de véritables prouesses. Vous êtes spécialiste, donc le spécialiste peut-être même de l'intelligence artificielle. Vous avez le cristal du CNRS, vous êtes docteur en physique. C'est génial la physique, mais il faut savoir l'interpréter.
Oui, je ne suis pas le spécialiste. Je suis...
Quand même, vous êtes reconnu au niveau mondial. Hein.
Oui. Bah, j'ai été reconnu au tournant des années 2000. Maintenant, je ne suis plus du tout dans l'intelligence artificielle. Alors, j'ai été un spécialiste, effectivement, à une certaine époque. Et c'est grâce à mes travaux... C'est une bonne question parce que en fait, aujourd'hui, les physiciens, même les plus illustres, se mettent les pieds dans le tapis à vouloir interpréter la physique à partir de la matière. C'est ce qu'on appelle le modèle standard qui prend comme pour base l'existence de la matière et de toutes ses déclinaisons. Lorsqu'on fait comme ça, on ne peut pas comprendre la physique, on ne peut pas vraiment comprendre les trous noirs, etc. On ne peut pas comprendre la matière noire, l'énergie noire, tout ce qui est noir. Et bien d'autres choses. On ne peut pas comprendre la nature de l'espace, on ne peut pas comprendre la gravité, on ne peut pas comprendre... voilà. Alors que si on remet tout, si on retourne la statue de la connaissance en mettant non pas la matière en premier mais la conscience en premier, on arrive à retrouver une physique intuitive. Parce qu'aujourd'hui, les physiciens refutent même... Enfin, les physiciens matérialistes refutent la notion de réalisme. Il n'est plus possible d'être réaliste en physique. Mais c'est parce qu'on essaye de tout ramener à la matière, alors que si on ramène tout à la conscience, on peut redevenir réaliste et on peut réhabiliter l'intuition en physique.
La physique d'un futur lumineux, peut-être ?
Ce que j'explique dans mon prochain livre qui s'appelle « La physique du futur lumineux » et qui va bientôt sortir en librairie.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence de Philippe Guillemant ? Vous avez aimé ?
Oui, j'ai bien aimé. Un peu scientifique au départ et puis après, les choses se posent et on comprend mieux le très scientifique au départ qui fait que des petites phrases ou des petits mots fait qu'en fait, on comprend le fil de l'histoire. Mais au départ, ça paraît très scientifique, mais au fur et à mesure, ça... voilà.
Et qu'est-ce que vous pensez de la transition de la physique à la spiritualité ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il arrive à faire la transition. Il n'enlève pas le côté émotionnel malgré... Et je pense que tous les scientifiques, les gros scientifiques, surtout les astrophysiciens et les physiciens, mais qu'en fait, tout ça, c'est un peu caché au peuple en réalité. Et on garde que le système scientifique matériel, alors que lui, il parle de la dualité. Moi, je parle de matériel et d'immatériel. Et en fait, lui, il en parle très clairement, en fait. Alors que les trois quarts des scientifiques qu'on voit à la télé, on parle que du matériel. Mais en fait, on fait croire aux gens que c'est comme ça, c'est bien, et il n'y a pas d'autre choix de vie, en fait. Ben non, l'être humain est tellement... complexe qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Donc je trouve qu'en fait, il a bien décrit le truc, un peu scientifiquement, mais c'est bien parce que ça, ceux qui ne sont pas spirituels, ils peuvent se raccrocher à ça, et ceux qui sont plus spirituels, ils peuvent comprendre le côté physique, en fait. Donc, j'ai adoré, mais je l'ai adoré déjà.
Moi, j'ai l'habitude de le suivre, je suis journaliste, mais pardon, je suis venue à titre privé. Il a cet avantage de créer des ponts entre les deux mondes, parce qu'il a eu un background extrêmement solide, scientifique, dans la physique dite dure, enfin la physique basique, et qu'il est passé en ce qu'on appelle ensuite la physique quantique, c'est-à-dire de l'infiniment petit, et qu'il a été capable de faire des ponts, il peut attirer sur les deux extrêmes, c'est-à-dire des gens qui ont une formation rationnelle cartésienne, qui sont impressionnés par les connaissances, et de fait il en a, et d'un autre côté, parce qu'il est allé sur des champs plus subtils de la physique quantique qui sont prouvés maintenant. On a des expériences qui montrent que la pensée peut se transformer en matière, enfin transformer et se transformer et transformer la matière, et que quand une pensée, c'est la fameuse image de l'aile du papillon, quand on a une pensée à un endroit du globe, on peut arriver par effet papillon d'avoir un effet à X centaines, milliers de kilomètres, peu importe. Il y a beaucoup de gens qui n'entendaient pas ça, qui prenaient ça pour des cagades, on va dire simplement, comme on dit dans le Sud, pendant très longtemps, et qui aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un changement global de conscience, etc., peuvent commencer à entendre précisément parce que des gens de cette qualité-là sont venus dans le champ de l'explicatif, du narratif nouveau, sur qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est les formes que nous sommes. Nous ne sommes que des formes du vivant, mais il y a des milliers de possibles formes du vivant qui se matérialisent quand ça se densifie, quand la matière se densifie. Vous avez une forme, alors soit humaine, soit une forme matérielle, peu importe. Mais tout est, encore une fois, vibration, et suivant la densité des vibrations, vous avez une forme ou une autre, etc. Et donc tout interagit. Et c'est pour ça que dans ce festival, c'est bien aussi, parce qu'il y a ces interactions autour du respect de la nature dont on dit bêtement qu'elle est séparée. Quand on parle de la nature, environnement, c'est comme si elle était séparée de nous. Or, le processus de vie, celui qui vous fait respirer maintenant, qui vous fait écouter les yeux briller, le sang, la lymphe, est-ce que vous pouvez arrêter ça ou créer ça? On dit on fait des enfants, mais ce n'est pas vrai, personne ne fait d'enfants. On est porteur de quelque chose qui permet que la vie nous traverse. Mais on ne crée pas la vie. La vie, elle arrive de ce principe beaucoup plus large qui est celui qui procède de tout ce qui est vivant. Les plantes, les objets, etc., à des taux vibratoires très différents. Donc on les voit, on ne les voit pas. On croit que c'est vivant ou ça ne l'est pas, mais ça l'est. Moi, j'ai connu, parce qu'en tant que journaliste, j'ai tourné beaucoup dans le monde sur des communautés internationalement, maintenant reconnues à l'époque, pris pour des fous, mais peu importe. Par exemple, en Écosse, à Finnhorn, où ils ont obtenu des légumes au fin fond de l'Écosse, sur les bords de la mer, avec des vents, du sable, etc. Des légumes extraordinaires, dont quelqu'un de la Société Botanique Royale à Londres, blablabla, a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette terre? Ben oui, cette terre, elle était tous les jours nourrie de vibrations de gens qui n'ont pas prié, mais faisaient un cérémonial d'avance, le matin, puis le midi, puis à la début d'après-midi, puis le soir, pour collaborer avec ce qu'ils appellent les devas, les esprits de la nature. On peut pas parler aux gens en disant c'est des malades mentaux, mais c'est pas vrai. Depuis des années, on a reconnu petit à petit que ces champs-là de non-visibles sont bien réels. Et quand on dit telle ou telle pensée, maintenant même des médecins obtus reconnaissent que oui, il y a peut-être des facteurs dits psychologiques, c'est-à-dire pas une maladie qu'on peut voir au scanner, mais quelque chose qui est dans la tête et qui crée des vibrations et qui a une influence sur le corps. Donc tout ça, c'est un champ global avec des approches différentes. Et Guillemont, il a cet avantage, encore une fois, de faire partie des gens qui ont été très utiles et qui sont toujours très utiles parce qu'ils rapprochent des mondes qui, a priori, pendant des décennies, ne pouvaient pas se rapprocher. Trop de rationnel d'un côté, trop de soi-disant ésotérique ou loufoque de l'autre. Eh bien, en ce moment, tout ça est en train de s'harmoniser et c'est beau.
Alors, vous venez d'assister à la conférence de Philippe Guillemont. Ce serait possible d'avoir une réaction à chaud?
Passionnant. On apprend plein de choses et on se pose encore plus de questions, en fait.
Philippe Guillemont a dit sur scène « Vous aimez m'entendre raconter, mais c'est pas évident que vous compreniez tout ». Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
C'est exactement ça. On ne comprend pas grand-chose. Mais ça fait réfléchir et ça fait des connexions neuronales, je pense. Et ça permet de se poser encore plus de questions pour aller encore plus loin.
Et d'après Philippe Guillemont, cette relation avec le temps, comment vous l'assimilez?
D'après Philippe, c'est rassurant parce que, en fait, notre futur nous attend, ou il est déjà là. Donc il y a moins de soucis à se faire, j'ai l'impression. C'est rassurant pour moi.
Et ça vous rend plus sensible à ce qu'on appelle les synchronicités?
Oui, complètement, tout à fait. Et c'est vrai que j'y crois déjà pas mal, et j'en ai eu pas mal, de signes, de synchronicités. Donc faire encore plus attention à l'intelligence justement émotionnelle, au ressenti, à l'intuition.
Et donc le fait aujourd'hui que vous soyez présent sur ce festival, c'est pas un hasard?
Ce n'est absolument pas un hasard. Sur les 3 jours d'ailleurs.